Je n'ai point honte de l'évangile. Je crois donc, je témoigne et je parle. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu dans l'accomplissement de son plan de rédemption dans le monde. Peuple de Dieu, chrétien du Sud, réveillez-vous, rejoignez le mouvement. Investissez-vous dans la mission de Dieu qui consiste à faire de toutes les nations, dans toutes les ethnies, dans toutes les races, dans tous les villages des disciples. Le monde a besoin de notre action. Le monde a besoin de Jésus.
Salutations à vous, mon ami. C'est votre ami Wendell Benjamin Etienne Webb. Tout le privilège est pour moi cette semaine de vous retrouver dans le cadre de notre rubrique Causerie sur la mission, Ti Causé sous mission en créole. Merci à tous nos abonnés. Merci à tous ceux qui aiment, qui partagent nos vidéos, à tous ceux qui produisent des remarques, des critiques et des suggestions en vue de notre amélioration. Car j'ai appris que l'excellence honore Dieu et inspire les hommes. J'espère que vous avez eu un très bon week-end. Je vous souhaite de passer une excellente semaine sous la protection du Tout-Puissant. Tenez bon, quoi qu'il advienne. C'est ici notre 7e vidéo. Dans la 6e, il a été question de la mission et la puissance. Nous avons dit qu'il est dangereux dans un monde d'hostilité de placer ou de minimiser le rôle du Saint-Esprit dans l'exercice de notre ministère d'évangélisation et de mission. Le succès de tous nos efforts repose sur le ministère incontestable du Saint-Esprit dans un monde de loups. À ceci, je rejoins ce que Tom et Kay dans leur ouvrage « Fondement en souligne ». Dieu a conçu l'Église, Jésus-Christ l'a établi, le Saint-Esprit l'a dynamise. Aujourd'hui, je vous apporte un autre sujet assez intéressant, formulé en termes de questions. Le missionnaire, un faiseur de disciples ou un faiseur d'aliénés? La religion est l'un des domaines les plus critiqués de la planète. Marx a dit que la religion est l'opium du peuple. Les gens comme lui pensent que la religion est un instrument d'aliénation et de servitude qui ne produit que des esservelés. Et le christianisme n'est pas épargné à ces critiques très virulentes, surtout le christianisme historique. Alors, il y a une question fondamentale qu'il convient de se poser. Le rôle de l'Église ou de la mission est-il d'engendrer des déséquilibrés, des individus sans capacité de réfléchir et de prendre des reculs ou de faire tout simplement des disciples? Essayons de définir d'abord un aliéné. Un aliéné, c'est un déséquilibré, un dérangé mental, une personne qui n'est pas saine d'esprit. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui est soumis à des contraintes au point de perdre son libre arbitre. Par souci un peu académique, essayons également de définir le concept de disciple. Selon Arrow Van Brommelen, dans son ouvrage En classe avec Dieu, être disciple, c'est adhérer à la vision de son maître et l'appliquer dans sa vie quotidienne. J'essaie de reformuler cette définition en ces termes. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est adhérer à sa vision et à son plan comme maître et les appliquer dans sa vie quotidienne. Cette définition nous renvoie nécessairement à la grande commission conseillée dans Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces deux versets font miroiter une réalité importante, le rapport existant entre disciples et enseignement. À ce niveau, en quoi consiste le fait de faire des disciples pour Christ? Le fait de faire des disciples consiste à enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Cette définition paraît préliminaire, simple et même simpliste, mais c'est fondamental. Faire des disciples consiste à enseigner à des individus tout ce que Jésus a prescrit. En d'autres termes, il s'agit d'un processus dynamique de transformation de vie intégrale calqué sur le plan de Dieu pour chaque chrétien, pour chaque disciple, ressembler à Jésus. Maintenant, en quoi consistent les enseignements de Jésus-Christ? D'abord, les enseignements de Jésus-Christ sont résumés dans le grand commandement, l'amour pour le tu et mura, selon André Comte-Sponville dans son ouvrage Petit traité des grandes vertus. L'amour est l'alpha et l'oméga des vertus. Et selon Paul, l'amour, c'est la voie par excellence. Tout le ministère, tout l'enseignement de Jésus-Christ repose sur le principe de l'amour. Qu'est-ce que cela veut dire en termes clairs? Jésus n'est pas un maître qui opprime, n'est pas un maître qui développe un rapport d'aliénation avec ses disciples. Au contraire, le mode de rapport qu'il développe ou qu'il veut que tous ses disciples développent avec lui se base sur l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Jésus n'inspire pas la peur, mais Jésus inspire une crainte respectueuse basée sur une relation d'amour. L'appel de Jésus-Christ est clair. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le programme de Jésus-Christ consiste à donner du repos à ceux qui sont chargés et fatigués. À ce niveau, nous pouvons prendre comme exemple Thomas, le sceptique Thomas, qui a voulu être plus convaincu de la résurrection de Jésus-Christ. Et à Jésus de produire des évidences de sa résurrection à Thomas. Et quand nous suivons les techniques, les méthodes d'enseignement de Jésus-Christ, il s'agit d'un maître qui invite à réfléchir, à raisonner et à penser. À ce niveau, il y a une question qu'il convient de se poser. Existe-t-il un rapport entre le christianisme historique et le christianisme biblique? En d'autres termes, ce que je veux dire, est-ce que nos enseignements correspondent fidèlement et nécessairement aux enseignements de Jésus-Christ? Beaucoup de gens pensent que le christianisme, c'est un instrument d'oppression. Mais voyons Jésus. Jésus n'a pas prôné l'aliénation. Il revient à nous, en fait, de correspondre nos enseignements à ceux de Jésus-Christ. Car toute connaissance vient de Dieu. Le Dieu rationnel, le Dieu de sagesse infinie, source de toute connaissance et de vérité, créateur d'un univers intelligible et des humains à son image, ne saurait en aucun cas nous engager qualité de ses disciples dans une relation d'aliénation en nous privant de tout bon sens et de la pensée critique. C'est notre rapport avec les enseignements de Jésus-Christ qu'il convient de redéfinir. Il revient à nous d'étudier de manière inductive les enseignements de Jésus-Christ, les comprendre, les formuler en principe intemporel, clair, cohérent et les inculquer avec créativité et engagement de les appliquer au quotidien. Mais vous pouvez vous demander, mais la religion, c'est des dogmes. Il y a des dogmes dans le christianisme. D'abord, c'est quoi un dogme? Au sens large, un dogme, c'est un point de doctrine établi ou regardé comme une vérité fondamentale incontestable dans une religion, une école philosophique. Il n'y a pas que la religion qui contient des dogmes. Il y a des dogmes partout. Par exemple, les matérialistes qui soutiennent qu'en dehors de la matière, il n'y a rien d'autre qui existe. Mais ça, franchement, c'est un dogme. Dans le domaine du droit, on parle du dogmatisme juridique. c'est extrêmement important. Et dans le contexte de la révélation biblique, un dogme, c'est un élément de vérité éternelle. Et nous pouvons par exemple considérer la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme deux dogmes du christianisme, ou bien parmi les dogmes les plus importants du christianisme. Mais attention, ces dogmes ne nous invitent pas à ne pas poser des questions, à ne pas effectuer des recherches, à ne pas creuser pour mieux comprendre. Au contraire, la mort et la résurrection de Jésus-Christ non seulement sont prouvées par la Bible, mais par des preuves historiques et scientifiques. Par conséquent, je rejoins, ou je fais appel plutôt, à un grand apologète chrétien, C.S. Lewis, qui a dit: le Dieu qui n'impose aucun dogme à ses fidèles n'est qu'un fantôme. Il ne produira pas la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. De ce fait, ne produira pas non plus l'amour qui en est l'aboutissement. Il n'y a rien dans cette religion servile qui puisse convaincre, convertir ou consoler les gens. Elle est donc absolument incapable de redonner de la vigueur à notre civilisation. Elle n'exige aucun sacrifice. Elle ne pourra jamais subjuguer notre paresse, nos convoitises naturelles, ni même rivaliser avec elle. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui utilisent le christianisme ou la foi chrétienne pour opprimer, zombifier des gens, pour produire des disciples et cervelés, cela n'a aucun rapport avec les enseignements et la personne de Jésus-Christ, le Dieu rationnel et transcendant. Par conséquent, Jésus est celui qui guérit. C'est lui qui rend réellement libre, pas seulement libre par rapport au péché, mais libre de penser, car en Jésus-Christ, dans le mode de relation avec lui, nous découvrons, le vrai sens de beaucoup de choses, de beaucoup de questions que nous nous posons. Jésus est celui qui communique l'épanouissement et la plénitude. Ainsi, le rôle de l'Église dans ses efforts missionnaires est de forger les caractères des disciples de Jésus-Christ engagés, qui l'aiment, tout en encourageant la pensée critique et une vision chrétienne du monde. Produire des disciples de ce genre assure une reproduction de qualité. À ceci, James Kennedy a dit: il est plus important de former un gagnant d'âme que de gagner une âme. Si nous formons conformément aux prescrits de Jésus-Christ des disciples, cela produira un effet domino transformationnel qui touchera les générations. Faire le contraire, c'est en réalité s'opposer à la vision du monde. Ainsi, il y a plusieurs principes clés qu'il convient de considérer. 1. Tous les chrétiens sont des disciples de Jésus-Christ. À ce niveau, certains disciples sont plus matures que d'autres, mais les bishops, les nouveaux convertis, sont tous des disciples de Jésus-Christ. Deuxième principe, Jésus poursuit son œuvre de discipulat dans le monde. Il a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est en réalité le maître par excellence qui poursuit son discipleship dans le monde. Comme notre maître, il est à nos côtés, il compatit à nos douleurs, il nous comprend et il assure notre processus de transformation de vie. Troisième principe fondamental, notre rôle est d'amener les gens au pied du véritable maître. N'essayons jamais de remplacer Jésus. Quatrième principe, nous ne faisons pas des disciples pour nous-mêmes, mais pour le royaume de Dieu. C'est extrêmement important. Par conséquent, nous devons libérer les potentiels. Libérer les potentiels. Les gens ne sont pas nos propriétés privées. Nous les formons en vue du ministère, du royaume de Dieu. Et c'est un principe Tout disciple est appelé à se reproduire. Chaque disciple un jour rendra compte. Comprendre cela, nous produirons des disciples responsables, engagés, intentionnels, passionnés et accomplis qui suivent leur maître sans gémissement. C'était ma rubrique pour vous. Notre sujet de prière pour cette semaine concerne les chrétiens persécutés du monde entier, notamment en Inde. Il y a quelques semaines, 16 familles chrétiennes, selon ce que nous rapporte Info Chrétienne, ont été sévèrement menacées de mort par des animistes qui voulaient que ces familles renient leur foi en Dieu pour retourner aux pratiques ancestrales. Certains ont abandonné et d'autres, la majorité, ont gardé la foi. Les autorités ont intervenu. Il n'y a plus de menaces, je pense, mais nous devons continuer à prier pour ces chrétiens. Et il y a un jeune adolescent qui a dit, « Si mon père ne veut pas aller à l'église, il est libre, mais je vais y aller parce que j'aime y aller. Je ressens quelque chose que je ne peux obtenir nulle part. Je suis libre de toute négativité et j'ai beaucoup de paix. Je suis le Christ depuis près de 2 ans maintenant, bien que ma famille soit chrétienne depuis plus de 6 ans. J'étais très malade, mais depuis que j'ai commencé à suivre Jésus, je suis en parfaite santé. Je ne quitterai pas Christ. » Mesdames, Messieurs, continuons à prier de tels chrétiens, de tels disciples de Jésus-Christ. Excellente semaine à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.